Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à Mopti, même heure partout au Mali. Voici les titres de ce journal. À Aka, dans le cercle de Youarou, des habitants ont été sommés de quitter les lieux par des présumés djihadistes. Ils ont déjà saboté le seul bac assurant la liaison entre Aka et Youarou. Le châtiment corporel s'effectue encore dans certains établissements malgré son interdiction. Un directeur d'école a été récemment sanctionné pour avoir fouetté un de ses élèves. La 160e édition du crépissage de la grande mosquée de Mopti s'est tenue hier dans la région. Ce moment de convivialité a vu la participation de nombreux mopticiens. Les détails de ce titre dans un instant avec Assitou Kanté. La mise en onde est assurée par Ibrahim Sanogo. Bonsoir et bienvenue. La situation sécuritaire reste attendue à Aka, dans le cercle de Youarou, région de Mopti. Des présumés djihadistes sont venus sommer les habitants de quitter le village ce week-end. Ces individus armés ont fait exploser le seul bac assurant la liaison entre Aka et Youarou. C'est le même climat de terreur qui règne dans le cercle de Niafengé, région de Tombouctou. Les détails avec Khalifa Gouita.
C'est un climat de peur qui règne à Niafengé depuis l'attaque terroriste contre le bac de la ville ce dimanche. C'est là malgré la présence des forces armées maliennes aux entrées et sorties ainsi que les lieux de traversée de la ville. Depuis cette attaque, plus de 200 ménages sont arrivés dans la ville de Niafengé, laissant tout derrière eux. Les autorités communales et les partenaires se mobilisent pour apporter de l'assistance à ces déplacés. Le bac fluvial assurant la traversée entre Niafengé et d'autres villages voisins de la commune a été explosé alors qu'il transportait deux camions. Trois des quatre conducteurs du bac ont été enlevés par les assaillants. Le quatrième a pu s'échapper. Ce même dimanche, aux environs de 20h, une centaine d'hommes armés sur des motos sont venus en encercler le village de Aka, une localité située à 6 km de Youarou. Selon des sources locales, ils ont demandé à la population de quitter immédiatement le village. Là aussi, les assaillants ont fait exploser le bac fluvial qui assure la liaison entre Aka et Youarou. Les terroristes reprocheraient aux habitants d'être complices de l'armée malienne. Les habitants de Aka appellent les autorités à venir à leur secours.
Et à Massina, toujours dans le centre du pays, les habitants s'inquiètent déjà du déroulement des travaux champêtres à cause de la menace terroriste. Ils alertent les autorités également sur la situation humanitaire dans la localité. Comment instaurer une accalmie dans cette partie du Mali? L'enseignant-chercheur et analyste sécuritaire Paul Oula estime qu'il faut une collaboration franche entre l'armée avec les populations locales. Il est joint au téléphone par Khalifa Gouita.
Il est nécessaire de comprendre que les régions du centre se caractérisent par la présence de plusieurs forêts. À partir de ces forêts, les terroristes peuvent planifier des opérations terroristes. Si on inclut les groupes d'autodéfense dans la situation du territoire, ça serait une très bonne chose. Les groupes d'autodéfense savent qui est terroriste, qui ne l'est pas. Quels sont leurs modes opératoires? Ils sont aussi en parfaite harmonie avec leur communauté. Et puis, vous allez voir au centre, presque toutes les familles ont des éléments dans le groupe de défense. Tel n'est pas le cas avec l'armée malienne. L'armée malienne est quand même professionnelle. Elle agit aussi avec certaines règles déontologiques. Alors, sur le plan stratégique, il est aujourd'hui irréfutable de mettre à l'écart les groupes de défense dans le processus de sécurisation des régions du centre.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte X. Cette actualité en bref, un chèque de 5 millions de francs CFA, c'est la somme offerte aux femmes et aux enfants des victimes de l'attaque du bateau Tombouctou. Le don a été fait par le réseau des femmes parlementaires ce week-end. Il s'agissait pour le réseau d'exprimer le soutien des femmes parlementaires à l'endroit de ces victimes et leurs familles. Les bénéficiaires ont remercié les parlementaires pour le geste qui, selon eux, soulage largement leurs souffrances. Ils ont par ailleurs demandé aux autorités de renforcer le soutien à cause des conditions difficiles dans lesquelles ils vivent depuis l'attaque du bateau. Le châtiment corporel est une pratique formellement interdite dans tous les établissements scolaires du Mali depuis 1962. Cependant, malgré cette interdiction, la pratique n'a pas tendance à disparaître dans certaines écoles. Le cas récent est celui du directeur d'une école publique de Sira Koro Meketana, suspendu pour 3 jours pour avoir fouetté un de ses élèves. Que disent les textes sur le châtiment corporel? Que pensent les parents d'élèves sur la pratique? Des éléments de réponse dans ce reportage de Moussa Agmahaha.
Daouda Sakho est le secrétaire général adjoint de la Fédération des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali. Selon lui, la pratique du châtiment corporel persiste au Mali malgré son interdiction depuis 1970.
Mais nous l'avons adopté, nous l'exécutons, c'est devenu une habitude. Alors certains le font avec la main trop lourde, d'autres avec la main légère. Nous avons rencontré des parents d'élèves, certains, beaucoup ont dit « je ne peux pas qu'on frappe mon enfant ». Alors donc il faudrait trouver un moyen où l'enseignant peut travailler avec l'enfant, le responsabilisant devant certains actes.
Pourtant, docteur Seydou Loua, enseignant-chercheur à l'Université des Lettres des Sciences Humaines et Sciences de l'Éducation de Bamako, affirme de son côté qu'il est certes difficile de maîtriser une classe avec un effectif pléthorique, mais des méthodes existent pour rétablir l'ordre sans passer par les châtiments corporels.
Tous ceux qui peuvent donner leur avis sur l'éducation sont d'accord sur le fait que l'enfant peut apprendre sans être châtié physiquement. Si vous prenez des classes de 20 élèves, des classes de 15 élèves, c'est très facile pour un enseignant d'asseoir la discipline sans châtiment corporel. Mais si vous avez 180 enfants devant vous, c'est extrêmement compliqué. Ça ne légitime pas le châtiment corporel, mais ça l'explique.
Ces deux acteurs de l'école lancent un appel à tous les enseignants afin qu'ils se conforment au texte pour éviter des cas de suspension.
Parlant toujours d'éducation, contribuer à promouvoir l'excellence dans nos écoles, c'est l'objectif d'un concours d'excellence initié ce week-end par le Syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales à Koutchala. Plus de 80 élèves candidats au DIF 2024 venus de 40 écoles du Centre d'animation pédagogique de Koutchala ont participé à ce concours. Les résultats sont attendus le week-end prochain. De Koutchala, direction Mopti où le crépissage de la grande mosquée de la région a eu lieu hier. Cet exercice qui se tient une fois par an a débuté depuis 1864. Il permet non seulement de revêtir la mosquée couverte de nouvelles boues, mais aussi de rendre l'édifice plus résistant. Le crépissage de la mosquée est aussi un moment de cohésion sociale entre les communautés de Mopti. Notre correspondant Mamadou Komina nous fait vivre ces moments.
C'est dans cette ambiance que des personnes âgées, des jeunes et femmes de Mopti se sont retrouvées ce dimanche pour crépir la grande mosquée. Pour Ibrahim Konaké, organisateur, c'est une vieille tradition perpétuée par les Mopticiens.
C'est un héritage. On a trouvé que nos parents faisaient ça. Ils les faisaient dans la joie et dans la convivialité et pour l'amour pour ce pays.
Lui, c'est un métier qu'il perpétue. Il s'agit de Mokhtar Niafo, chef de maçon. Il nous explique les ingrédients utilisés pour la confection de la bouillie.
On prépare en avance les bancos. C'est fait avec de l'eau, du riz et du sable. Le crépissage protège la mosquée contre la pluie et les intempéries. L'habillage de la mosquée, c'est avec la boue et nous constatons que la mosquée est protégée après le crépissage.
Les femmes occupent aussi une place dans le processus de crépissage. Ma Traoré est une participante.
Depuis que je suis jeune fille, je participe au crépissage. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Nous amenons de l'eau, banco et du sable. C'est ce que nous faisons pour aider.
La grande mosquée de Mopti a été construite en 1864 et depuis cette date, les populations se réunissent chaque année pour sa restauration. Mopti, Mamadou Komina pour Sidio Tamani.
Sidio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Dans notre rubrique Zoom sur d'aujourd'hui, nous braquons nos projecteurs sur une catégorie de gens. Il s'agit de ceux-là qui ne savent pas manger avec fourchette et cuillère, mais s'entêtent à les utiliser quand ils sont dans les restaurants. Fatia Tara nous en dit plus.
Au restaurant, beaucoup de gens veulent ressembler aux messieurs de la grande ville, les civilisés, les branchés, comme on l'est dit. C'est le cas de cet homme qu'on va nommer Abdul Karim Maïga qui s'est rendu au restaurant avec sa cousine. Pour faire comme les messieurs branchés, il tente de manger son poulet à la fourchette et au couteau. Alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a jamais si bien utilisé ces objets à la maison. C'est le début d'une lutte avec le poulet, bien que celui-ci soit mort. Dès qu'il a essayé de couper un morceau, le plat s'est renversé. Et tout l'entourage regarde subitement dans la direction d'Abdul. Beaucoup éclatent de rire, pendant que d'autres font semblant de compatir et les regardent avec peine. Sa cousine ne l'a pas raté comme le font généralement les cousins entre eux. Gawake Flesa, autrement dit, regardez-moi ces villageois. Mange à la main, s'écria-t-elle. Et notre voisin de table mangeant à la main l'invite à faire comme lui. Jo, ante tu babouye, anganga dumni dumnantegeche, qui veut dire, mangeons à la main, nous ne sommes pas des blancs. Mais Simaïga n'a point répliqué, tellement gêné qu'il s'est juste levé de la table et est parti. Ils sont nombreux des gens comme Maïga qui sont impressionnés une fois dans les restaurants et se mettent dans l'air peau des mégalomanes. Comme le dit l'adage, le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Alors que chacun évolue selon sa culture.
C'est noté, Fatih Yatara. Dans quelques minutes, ce sera le Grand Dialogue. Bonsoir, Segou Gadjigo.
Bonsoir, Assitou.
Alors ce soir, vous allez aborder quel sujet dans le débat?
Polémique autour des indemnités des membres du Conseil National de Transition. C'est le sujet du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Alors à défaut d'avoir un membre du CNT sur notre plateau, nous en parlons avec des analystes. Il s'agit de Dr Bakabini Keïta, enseignant-chercheur analyste politique Soumaï Lala, enseignant-chercheur également, Dr Souleymane Keïta, enseignant-chercheur également.
Merci et très bon débat. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour écouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Vous pouvez retrouver également toutes nos productions sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. Restez à notre écoute dans un instant, le magazine. La drogue demeure un véritable fléau au Mali, selon le secrétariat permanent de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre les stupéfiants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'usage de la drogue a causé la mort à 139 personnes en 2020 au Mali. En février dernier, trois jeunes de la région de Gao, au nord, sont décédés après avoir consommé ces produits. Le sud du pays non plus n'est pas épargné. Les stupéfiants font également des ravages au sein de la couche juvénile dans les régions de Sikasso et Kaya. La mort d'un adolescent à Bamako est également associée à la drogue. Alors, comment lutter contre la drogue au Mali? C'est le thème de ce numéro du magazine Gouvernance et Citoyenneté de ce lundi. C'est une réalisation de Ali Cissé.
La flambée du taux de consommation de la drogue dans la région de Gao inquiète les populations de la cité des Askia. Des affrontements avec des armes blanches y sont également signalés. Toutes choses dénoncées par les riverains. Dans ce reportage de Halima Yatara, ils interpellent les autorités pour mettre fin à ces dérives.
Selon les habitants, les plages doivent être des lieux de loisirs et de détente, et non des lieux de dépravation des mœurs.
Ces jeunes doivent savoir qu'ils sont les futurs parents. C'est pourquoi donc, ils doivent éviter ce genre de comportement.
Très inquiétant.
Nous demandons auprès des autorités d'essayer de réglementer cela.
C'est une situation préoccupante, indiquent les responsables du Conseil communal de la jeunesse. Moussa Boukar, président du Conseil communal de la jeunesse de Gao.
C'est des héritages qui nous ont été légués par nos parents. D'ailleurs, nous, notre plage a même une histoire. Il est de notre devoir en tant que jeunesse de jouer pleinement nous notre rôle.
À noter que la transgression des mœurs ne profite à personne et ces genres de comportements doivent être combattus.
Les stupéfiants ne font pas des ravages que dans le nord du Mali. À Kadjolo, ville située à 10 km de la frontière ivoirienne, la drogue est en train de nuire aux jeunes, comme en témoignent les habitants de la localité. Ils demandent aux parents de se donner la main afin de circonscrire au phénomène.
La mission, elle est noble, elle est bien, si dans la mesure où elle se passe dans les règles de l'art. Les vendeurs de stupes, ils n'ont plus peur de ces gens-là.
Certains enfants se cachent pour prendre les stupéfiants, contrairement à d'autres. Nous qui sommes les parents, nous devons être solidaires à ne pas créer des différences. Apprenons à corriger les enfants quand ils ne se comportent pas bien. C'est la seule solution pour moi pour que les enfants apprennent à renoncer aux mauvaises pratiques.
Il n'existe à ce jour aucune politique nationale de lutte contre la drogue au Mali. Mais selon le colonel Ismaïl Makalou, secrétaire permanent de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre les stupéfiants, l'acheminement, la vente et la consommation des produits psychotropes dans les pays sont soumises à des conditions.
C'est le secrétaire permanent qui a la légitimité d'établir les permis d'importation de stupéfiants et substances psychotropes, de contrôler l'entrée et la répartition et l'utilisation à tous les stades, mais d'endosser les certificats d'autorisation d'importation, d'exportation et de tenir à jour la liste des personnes et établissements autorisés à détenir, fabriquer ou commercialiser les stupéfiants et les substances psychotropes. Et veiller aussi au stockage et à la destruction des produits stupéfiants saisis.
Selon des observateurs, Misira et Bagadadji sont deux quartiers de Bamako réputés pour la vente de produits stupéfiants. D'ailleurs, à Bagadadji, un jeune a été poignardé à mort par son ami le 6 avril dernier. À la question de savoir comment la drogue atterrit dans la capitale et dans les différentes régions du Mali, malgré les mesures prises, le colonel Ismaïl Makalou de la mission interministérielle de lutte contre la drogue donne des explications.
Ces gens aussi s'adaptent à tous les mécanismes, quel que soit les mécanismes mis en place par le service de répression pour lutter contre ces fléaux, ces gens trouvent le moyen. Derrière aussi cette problématique des drogues se cache aussi quelque chose de registre. C'est pour cela, c'est un combat de longue haleine et c'est un combat qui va s'étendre sur la temporalité, sur la durée. Et c'est pour cela, il faudrait que tout le monde puisse s'associer pour qu'on puisse bouter à la touche quand même ces fléaux.
En plus de l'élaboration et de la validation d'une politique nationale de lutte contre les stupéfiants, la MILD créée en 2015 a aussi pour mission de créer des centres de traitement spécialisés dans le cadre de la prise en charge des troubles liés à la consommation de drogue au Mali.